Et l'invité du grand entretien de la matinale aujourd'hui est photographe engagé pour la planète. Vous avez certainement en tête ces photos vues du ciel. Bonjour Yann Arthus Bertrand.
Bonjour.
Votre livre La Terre vue du ciel est sorti il y a 20 ans, c'était en 1999. Vous en avez vendu des millions depuis. Si vous repreniez aujourd'hui les clichés au même endroit, ça n'aurait plus rien à voir ?
La Terre est toujours aussi belle, toujours aussi intéressante, mais c'est vrai que depuis que je survole la Terre, il y a deux choses qui m'ont beaucoup marqué. D'abord, c'est les villes qui s'agrandissent. Chaque semaine, il y a 3 millions de personnes qui rejoignent les villes dans le monde. 3 millions de personnes, ça fait du monde ça, et ça se voit ça.
Ça change les paysages.
Oui, parce que les agriculteurs qui sont les gens les plus pauvres du monde, voilà, 70% des gens les plus pauvres sont les agriculteurs, rejoignent les villes. Et puis une chose qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est la déforestation. Aujourd'hui, et ça se voit, vu du ciel, ça se voit beaucoup par les photos satellites, mais il y a des endroits que j'ai survolés, par exemple au Brésil, à Bornéo, je ne suis pas retourné partout, mais je regarde beaucoup sur Internet ce qui est en train de se faire. Je vole beaucoup moins qu'avant. Aujourd'hui, on fait plus du drone et je suis plus réalisateur que photographe. Mais la déforestation, vous imaginez qu'on déforeste chaque année en forêt primaire la taille de la Belgique. C'est fou, quoi. Et tout ça pour faire des aliments pour nourrir nos animaux ou pour l'huile de palme. C'est fou.
Et les photographes sont des vigies indispensables, des observateurs indispensables pour voir cette planète changer.
Je crois que d'être journaliste et de survoler la Terre, on travaille avec les photos satellites, avec les photos du sol et aussi avec les photos aériennes. Vous savez que quand j'ai commencé la photographie aérienne, vous savez que j'étais parti étudier les lions au Kenya, on va en parler tout à l'heure,
oui.
Et pour gagner ma vie, j'étais pilote de montgolfière. Et donc j'ai découvert la photographie aérienne, mais à cette époque-là, on n'avait pas tous dans notre poche les photographies aériennes sur Google Earth. La photographie aérienne était quelque chose de très très nouveau, alors qu'aujourd'hui, ça n'est pas de plus personne, parce qu'on a tous dans notre poche notre téléphone portable, on peut voir notre maison.
C'est aussi pour ça que ça nous a fasciné votre livre La Terre vue du ciel. C'était la première fois qu'on voyait de tels paysages. Alors justement, vous exposez en ce moment sur le toit de la Défense 260 photos pour retracer vos 50 ans de carrière. L'expo s'appelle Legacy, l'héritage que nous laissons à nos enfants. C'est un héritage sacrifié, dilapidé.
C'est un état. En tout cas, on laisse aux gens qu'on aime, à nos enfants, une terre pas dans la même. D'une façon différente à laquelle on l'a trouvé. Moi, je fais partie de la grande génération baby-boom, la croissance à tout prix. Quand je suis né, on était, vous imaginez, un peu plus de 2 milliards. Aujourd'hui, on est 7 milliards 700 millions. Et cette tyrannie de la croissance, ce besoin de croissance dont on a, faut dire aussi que on vit tous beaucoup plus vieux, il y a beaucoup moins de mortalité infantile, il y a beaucoup de choses qui, on est tous beaucoup plus riches, il y a plus de démocratie.
Mais vous diriez que votre génération a fait n'importe quoi?
Pas n'importe quoi, on a cru bien faire. Il n'y a pas de culpabilité à ça, mais aujourd'hui, depuis 15 ans, alors qu'on sait ce qui arrive, ce qui est étonnant, c'est qu'on n'arrive pas à inverser cette tendance, cette tyrannie de la croissance qui, en effet, paye les routes, paye les hôpitaux, dont on a besoin pour vivre. Mais on est devenu complètement fou, quoi. Ce qui se passe en ce moment est vraiment, je suis un optimiste très, 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 très inquiet. Voilà.
Dans votre exposition, dans vos photos, vous cherchez d'abord l'esthétique ou le message écologiste ?
Alors je suis parti au début, quand j'ai commencé ce travail, pour parler de la beauté du monde dans les années 92. Et puis petit à petit, rencontrant des scientifiques, voyant des choses qui m'étonnaient. Moi j'étais très très mauvais à l'école, je m'intéressais pas à grand chose. Et là, depuis que j'ai une trentaine d'années, je suis un obsédé de lire des études scientifiques, de comprendre ce qui est en train de se passer. Et quand vous faites un travail comme ça, vous faites une photo, mais essayez de comprendre qu'est-ce que vous allez dire derrière. Moi, je suis aussi. J'ai une obsession, c'est que mes photos veulent dire quelque chose. Et donc, l'expo à la Grande Arche, il y a des légendes qui sont assez longues. On peut passer des heures à lire les légendes faites par des scientifiques. Et c'est vrai que ça a changé ma vie complètement. J'étais plus le même après ce travail qu'avant.
Le risque, c'est de rendre, par exemple, certaines pollutions très belles, très esthétiques, des couleurs dans des fleuves.
Oui, c'est vrai, la pollution.
Des brumes sur des villes, ça peut être très beau aussi.
Oui, mais quand même, je pense qu'on est assez intelligent pour voir ce qu'il y a derrière.
Mais quand vous prenez, par exemple, la mine d'uranium en Australie.
Oui, mais la mine d'uranium n'est pas qu'une pollution, quoi. C'est un exemple de ce qu'aujourd'hui on est en train. Vous savez, aujourd'hui on est en train de consommer la terre. On est en train de prendre tout ce qu'on peut prendre comme ressource sur la terre pour nourrir ces 7 milliards 700 millions d'habitants. C'est incroyable. Et bientôt il y en aura plus. Donc il va falloir qu'on. Enfin, je vais pas vous faire le discours. C'est bien ce qu'on parle pour l'uranium. C'est la même chose pour le poisson, pour le fer. Voilà, tous les minéraux indispensables dont on a besoin pour vivre.
Alors le principe de vos photos vues d'en haut vous a conduit à prendre beaucoup l'avion. Vous nous le disiez à l'instant. Vous renoncez à l'avion aujourd'hui?
Aujourd'hui, je ne prends plus jamais l'avion pour mes transports personnels. Je prends encore pour travailler et j'essaye de faire beaucoup de Skype, de travailler. Quoi. Souvent, je me souviens, on va pour faire une conférence 2 jours à New York, c'est ridicule. D'ailleurs, la petite Greta qui va être à Paris dans 2 jours, la semaine prochaine,
Greta Thunberg.
Elle a décidé qu'elle allait en bateau aux États-Unis. Elle a tellement raison, quoi. Elle nous fait honte à tous. Je crois qu'elle est beaucoup plus radicale que nous.
Vous referiez les choses différemment?
Oui, bien sûr.
Mais comment faire? Alors, vous avez commencé dans une montgolfière, d'accord, mais toutes ces photos, on ne peut pas les prendre.
Aujourd'hui, on a des drones qui nous permettent de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Voilà.
Et on travaille avec les drones. Vous travaillez beaucoup avec les drones aujourd'hui.
Aussi, je travaille aussi beaucoup sur. On sort un film sur les femmes. On vient de faire 2000 interviews. Donc là, je travaille. C'est peut-être plus facile de parler d'humanisme que de parler d'écologie aujourd'hui. Plus facile de parler d'amour, voilà.
Et cette écotaxe proposée par le gouvernement, c'est une bonne chose.
Il y a longtemps que ça devrait être. C'est complètement anormal que les avions ne paient pas de taxes sur les pétroles. Vous savez, il y a 10 millions d'euros de subventions aux énergies fossiles chaque minute. Vous imaginez dans le monde. On est tellement accro aux énergies fossiles. D'ailleurs, on est incapable de gérer l'exploitation. Quoi. C'est open bar pour tout le monde. Et on en a tellement besoin qu'on est incapable d'arrêter ça. Quoi.
Donc, il faut repenser nos déplacements. Par exemple, là, on est en pleine vacances. Il faut arrêter de prendre l'avion pour son bon plaisir.
Il faut repenser toute notre façon de vivre. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut réfléchir. C'est vraiment un changement de civilisation.
Alors, votre exposition Legacy à la Défense présente aussi vos toutes premières photos. Là, c'est au ras du sol. C'est des images de Lyon. C'est quand vous êtes au Kenya, entre 1979 et 1981. Vous êtes autodidacte à l'époque?
Non, mais mon idole, c'est Jane Goodall. C'était cette femme qui étudie les chimpanzés. Et avec ma femme Anne, on décide de partir au Kenya. Et je veux devenir scientifique. Et une chance, il y a un truc formidable en France, c'est qu'on peut passer un doctorat, même si on n'a aucun diplôme avant. Il faut trouver un directeur de thèse. Donc on décide de faire une étude sur le comportement des lions au Kenya, tous les deux. Et voilà, et donc on part là-bas. Et c'est un moment, et je dis souvent, c'est un moment où j'étais très heureux. Et je m'étais peut-être pas assez aperçu que j'étais amoureux. J'avais le kit complet de l'aventure. Au Kenya, j'adorais ça avec ma Land Rover, j'allais voir les lions, j'avais trouvé 2 petits garçons tout faits qui s'appelaient Baptiste et Guillaume que j'adorais, qui sont devenus mes enfants, et j'étais heureux, voilà. Et j'ai peut-être pas assez profité de ces moments, j'étais tellement ambitieux, envie de réussir, j'avais peur de passer à côté ces moments magiques, puis je devais faire des photos, quoi, mon directeur de thèse avait accepté que je fasse cette thèse avec des photos, donc je suis devenu photographe, et j'ai souvent un peu comme une blague, mais il y a quelque chose de vrai, ce sont les lions qui m'ont appris la photographie.
Voilà. Mais ces lions, aujourd'hui, quand on les regarde aujourd'hui, ces photos de lions,
c'est un monde qui disparaît.
Voilà, c'est le problème de la biodiversité, c'est le problème de ces espèces qui disparaissent. Vous n'aviez pas cette conscience-là, peut-être,
mais
quand
non,
vous preniez ces photos.
Jamais on aurait pensé que les 400 000 lions qu'il y avait à cette époque-là au Kenya, il n'y en aurait plus que 20 000 aujourd'hui. Quoi.
Il n'y avait pas une ambition écologiste à l'époque.
J'avais une ambition écologique, bien sûr, mais on pensait pas que ça allait aller si vite. On pensait pas qu'aujourd'hui, on voit bien en France, d'ailleurs avec les ours et les loups, tous ces gros animaux sauvages sont en train dérangent l'activité humaine. Vous savez, quand vous vous plantez, que vous avez des éléphants qui passent, donc les éléphants, je parle des éléphants parce qu'on parle aujourd'hui de la disparition inévitable des éléphants, c'est un truc, j'ai cru entendre dire. Voilà. Mais vous savez, en France, on a perdu 30% des passereaux, on a perdu 80% des insectes, et on continue à mettre ces pesticides, ces herbicides. C'est pas d'espoir, on a besoin de courage. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait des maires qui mettaient des arrêtés. Alors, c'est un seul nom, c'est les DEP, c'est la distance, vous voyez, aux pesticides par rapport à l'environnement. On est même ça, la chose la plus évident, quoi. Par exemple, vous savez que dans les gens qui font du vin, c'est 3% de la surface française, mais c'est 20% des pesticides. Et on s'aperçoit que les gens qui travaillent avec les pesticides, comme les riverains, sont en danger. Donc, il y a des maires aujourd'hui qui font plus que l'État le demande, qui font une distance environnementale, et c'est absolument très important. Je ne sais pas quel nom exact, je ne vais pas me tromper dans le nom. La distance, l'éloignement des pesticides. Et je dis bravo aux maires qui sont en ce moment en train de prendre des décisions, de même sans attendre les décisions de l'État.
Yann Arthus-Bertrand, photographe, s'est posé ce matin dans notre studio de France Inter pour le grand entretien. Dans les clichés que l'on peut découvrir à la Défense, dans votre exposition Legacy, il y a aussi des portraits d'humains, des portraits d'anonymes. On connaît beaucoup moins cette facette de votre travail. Qui sont ces anonymes?
J'ai commencé un travail sur la bâche. C'est un peu le début de la photographie. Un nadar avait fait ça. Et j'avais photographié des animaux. animaux au salon d'agriculture, je m'étais aperçu que, en fin de compte, ce qui était beaucoup plus intéressant que les animaux, c'était les paysans. Donc voilà, on a fait des photos assez émouvantes, d'ailleurs, de ce monde un peu qui est en train de disparaître et qui souffre. Voilà. Et après, l'Express m'avait demandé de faire un gros travail sur les Français. Donc j'ai photographié un boucher, un boulanger, un avocat, le président de la République. Voilà. Et c'est un travail que je continue encore. Je viens, il y a pas très longtemps, j'ai photographié des gilets jaunes, des académiciens. Voilà.
Il y a une dimension politique engagée aussi dans
ces
portraits.
C'est juste
un portrait de la France.
D'abord, j'aime les gens. J'aime la photographie des gens qui sourient, qui ont l'air heureux. Et ce côté de faire de la photo, de sublimer un peu les relations des gens avec la... J'adore photographier les gens en famille. Voilà, il y a un côté où les gens se sentent heureux, se sentent bien, et j'adore faire ça. J'en ai fait des milliers et je continue. D'ailleurs, on commence un film qui s'appelle France, une histoire d'amour, où je vais commencer à travailler beaucoup avec les Français.
Alors parlons de la France, de la politique française. Les résultats des dernières élections européennes, est-ce qu'elles ne vous redonnent pas un peu espoir avec cette poussée des écologistes?
On a déjà eu 16%, je me souviens, sous Sarkozy. Ça n'a pas changé grand-chose. Je sais pas.
Il y a quand même une prise de conscience.
Croire à l'homme politique aujourd'hui, c'est croire un peu au Père Noël. J'ai tellement été. Moi, je vote quand même Dumont. Hein, je vote quand même écolo depuis que j'ai 22-23 ans. Non, je pense que c'est notre civilisation qui est en jeu. Aujourd'hui, le graal de toute politique, c'est la croissance. La croissance, c'est le pouvoir d'achat, les emplois. Et malheureusement, ça marche pas avec ce qu'on devrait faire aujourd'hui. On n'est pas assez radical. On n'a pas besoin d'espoir, on a besoin de courage. Et il y a un manque de courage de nous tous, et des politiques en particulier.
Juste avant les élections européennes, vous aviez lancé un appel avec l'aviateur Gérald Fetzer. Ça s'appelait Objectif Terre. Vous demandiez d'arrêter de subventionner les énergies fossiles, d'abandonner le glyphosate.
On n'arrête pas de le dire.
Vous aviez eu des réponses des candidats?
Non, très peu, très très peu. Mais on a tel...
Vous n'avez aucun espoir dans les politiques d'aujourd'hui?
Non, j'ai aucun espoir dans le système dans lequel on est embarqué, où on a besoin des... Vous savez, l'accord de Paris, COP 21, où des gens sont réunis pour parler du changement climatique. Donc quelque part, on parle des énergies fossiles. Eh bien, figurez-vous que dans cet accord, il n'y a pas le mot pétrole, il n'y a pas le mot charbon, il n'y a pas le mot gaz, il n'y a pas le mot énergie fossile. Sinon, les pays producteurs ne signaient pas. Vous voyez bien à quel point on a besoin d'un gouvernement mondial qui tape sur le poing et dit « maintenant ça suffit ». On devrait réguler les énergies fossiles. Notre pays peut vivre avec moins d'énergie fossile. Il y a des pays qui en ont besoin beaucoup plus. Voilà, c'est une façon de réguler, de prise de conscience mondiale qu'on n'a pas encore. On est dans l'insouciance mondiale. Vous avez vu les derniers chiffres sur le changement climatique. Il y a une base aux États-Unis qui s'appelle la base alerte en Alaska, qui est à 900 km du pôle. Normalement, la température moyenne de cet endroit, c'est 3 degrés pendant le mois de juillet. Là, dernièrement, ils viennent d'avoir 21 degrés. 21 degrés, où normalement la température moyenne est 3 degrés. Le permafrost, cette espèce de terre gelée qu'il y a en Antarctique, qui est autour de l'Antarctique, les scientifiques avaient estimé qu'elle commencera à geler dans les années 70. Et c'est en ce moment, ça se passe en ce moment. Il y a des papiers incroyables là-dessus. Renseignez-vous, quoi. Et on continue comme si on est piqué un peu au génie humain, comme quoi l'homme trouvera la solution, c'est pas grave, on a toujours trouvé la solution. Non, l'homme ne trouvera jamais la solution. En ce moment, la concentration de carbone dans l'atmosphère, c'est le même qu'il y a 3 à 4 millions d'années. À l'époque où il y avait 3 ou 5 degrés de plus, à l'époque où la mer était 10 à 20 mètres plus haute, à l'époque où il y avait des arbres en Antarctique, quand vous écoutez ça, ça fait froid dans l'eau.
Vous êtes un écologiste pessimiste, vous le disiez à ce micro il y a quelques mois.
Non, je suis un optimiste. Je suis un optimiste. Je suis un pessimiste plus. C'est-à-dire que j'essaye de voir ce qui va arriver, de regarder avec les yeux ouverts ce qui est en train d'arriver. De pas me cacher derrière. Il faut avoir le courage de la vérité. Et personne n'a aujourd'hui, très peu de gens, ont le courage de cette vérité. Hulot, là je suis assis sur le siège où Hulot a donné ses démissions. Et je pense que là, lui, il avait compris ça. Cette incapacité à changer notre civilisation. Voilà. C'est assez décourageant. Hein.
Et justement, les successeurs de Nicolas Hulot, on a eu l'affaire de Rugy là, hein, donc le départ du ministre de la Transition écologique remplacé par Elisabeth Borne, vous avez quelques espoirs? Ministre des Transports,
ce qui est important, c'est pas qu'il ait mangé du homard, c'est est-ce qu'il a été ou pas un bon ministre. C'est ça qui est important, voilà. Je pense qu'il y a une dérive de la politique, un peu de cynisme, de scepticisme, mais surtout qui pour moi est assez insupportable. Je dois reconnaître.
Et Elisabeth Borne, qui était au transport.
Je n'en sais rien, mais vous rendez compte, vous savez, en ce moment, il y a un problème de train entre Paris-Perpignan, là où le train. Elle était ministre des Transports, elle a été incapable de gérer ça. Vous savez, ils sont prisonniers toujours de ce, dans cette espèce de tyrannie de l'économie qui dépend de la croissance, et la croissance n'est pas bon pour l'environnement, on le sait tous.
Et la jeune génération, elle ne vous donne pas un peu d'espoir? Greta Thunberg, dont on parlait, cette jeune Suédoise,
c'est le seul espoir.
Toutes ces manifestations de jeunes un peu partout dans le monde, eux, ils se mobilisent assez fortement.
J'espère qu'ils seront, qu'ils seront des centaines de millions à manifester dans la rue. Je dis à tous les jeunes qui m'écoutent aujourd'hui, faites grève le vendredi. Voilà, et c'est vrai que je voyais une pancarte l'autre jour, ça sert à rien de travailler avec ce monde de merde que vous nous préparez, et ils ont raison. C'est peut-être l'espoir que j'ai, voilà.
Quand même, la jeunesse. L'interview du ciel, c'est votre signature. Ça ne vous aura pas échappé, ce week-end, on célèbre un anniversaire qui nous projette encore au-delà, dans l'espace, 50 ans qu'un homme a posé le pied sur la Lune. Vous vous souvenez, vous, où vous étiez, Yann Arthus Bertrand, dans la nuit du 20 au 21 juillet 1969.
C'est drôle parce que...
Vous aviez quel âge? Vous aviez 23 ans, je crois.
Alors, on n'avait pas la télévision, donc j'avais été voir la télévision dans une ferme assez traditionnelle. J'avais bu de la goutte, je me souviens encore, c'est un alcool fait avec de jus de pomme. Et c'était absolument incroyable de regarder dans une espèce de ferme traditionnelle, un peu comme Depardon, avec des décors incroyables, de regarder sur une télévision en noir et blanc, je m'en souviens très bien. Voilà. J'étais pas du tout dans le monde moderne d'aujourd'hui.
Ça vous avait donné envie?
Non, pas du tout. Non, parce que...
Vous préférez la Terre, je crois, hein,
non,
pas la
mais,
Lune.
Vous savez, ça sert à... Les gens qui vous disent, bon, on ira un jour dans Mars, mais c'est ridicule, quoi. Faudrait mieux d'abord de protéger ce qu'on a autour de nous et de respecter ce qu'on a.
Même
est-ce qu'il nous manque un peu,
fabuleuse.
Je crois, cette espèce de compassion pour le monde animal et végétal autour de nous? Je crois que c'est vraiment une qualité qui nous manque énormément.
Vous avez quelques livres avec
vous
ce matin.
Oui, un livre formidable qui s'appelle « Pour ne plus se mentir » de Jean-Marc Gancil aux éditions de l'Échiquier. C'est vraiment un livre que tout le monde devrait lire. Voilà, c'est un livre qui résume assez bien ce qui est en train de se passer en ce moment. Et puis un livre formidable d'Inès Leroux sur les algues vertes, l'histoire interdite. C'est une enquête, presque une enquête policière sur 5 ans ou 10 ans d'histoire d'algues vertes. Voilà.
Les algues vertes font des ravages aujourd'hui.
Et sur le lobby agricole.
En Bretagne.
Voilà. Et puis aussi, vous savez que j'ai une fondation qui s'appelle Good Planet,
voilà,
où tous les week-ends, vous pouvez venir parler, on peut aussi bien parler des abeilles, qu'on va parler des réfugiés, il y a une école de cuisine. C'est gratuit, c'est ouvert à tous, et c'est vraiment un endroit où règne la bienveillance, la gentillesse. C'est tout à fait utopique tout ça. Mais je pense que c'est des valeurs importantes dont on aura besoin pour supporter ce qui est en train d'arriver. Et c'est dans le bois de Boulogne, c'est ouvert à tous, et tout le monde est bienvenu, en famille, avec des vidéos formidables sur le monde sous-marin.
Yann Arthus Bertrand, merci beaucoup d'avoir été l'invité du grand entretien de la matinale sur France Inter ce matin. Je rappelle aussi que votre rétrospective Legacy, c'est sur le toit de la Grande Arche de la Défense, vue magique hein, aussi sur Paris, il y a des belles photos à faire là aussi.
Et puis il y a aussi toutes les films, il y a 5 films qui passent en permanence.
Que vous diffusez en permanence.
Les films Home, Human, sur l'environnement.
C'est tous les jours.
C'est la plus belle exposition que j'ai jamais eue, c'est assez impressionnant d'ailleurs quand je vois tout ça. Je me dis mais quelle chance j'ai eu de voir tout ça.
Toute votre carrière, c'est tous les jours jusqu'au 1er décembre, merci à vous.